chapitre 8e. Et ce matin, nous allons parler d'un réveil qui a eu lieu. Je crois qu'on aspire tous à vivre un réveil. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire un réveil? Un réveil, ça veut dire des hommes et des femmes qui découvrent l'Évangile, qui se convertissent, mais ce n'est pas simplement au niveau d'un petit nombre, mais c'est au niveau d'une large population que, eh bien, un réveil se caractérise. Et ici, nous allons voir comment l'Évangile est entré dans le cœur des Samaritains. Et je voudrais que, voilà, on puisse découvrir ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont rencontré le Seigneur. Et je crois que notre nation, notre pays de France, cette ville de Montpellier, a besoin de rencontrer Jésus. Alléluia! On rend grâce de ce que, eh bien, dans cette ville de Montpellier, il puisse y avoir plusieurs églises, mais croyons que par rapport à la population de Montpellier, c'est vraiment peu de choses. Il y a vraiment besoin qu'il y ait, eh bien, un souffle, une action du Saint-Esprit dans cette ville pour que plusieurs découvrent, eh bien, le bon nom du Seigneur. Alors, on va voir ce qui s'est passé parmi les Samaritains. Et on commence donc dans Actes au chapitre 8e et le verset 1er. Voici ce qui nous est dit. Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Tout à l'heure, on a lu un texte de lui. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Et on est en plein dedans, là, à ce moment-là. Il nous est dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, c'était un homme qui avait été choisi par l'Église pour servir aux tables, pour distribuer la nourriture, notamment aux veuves, aux personnes pauvres de l'Église et aux veuves. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Il est parlé là, bien sûr, du baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, pas qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage, à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes donc dans ce texte qui est merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des hommes et des femmes qui découvrent le Seigneur, alléluia, une population entière qui accepte Jésus, des miracles, mais alléluia, amen, des baptêmes et toute l'œuvre de Dieu qui se fait. Le chapitre 8, c'est un chapitre important dans le livre des Actes des Apôtres parce qu'il marque un tournant dans l'histoire de l'Église de Jérusalem. La semaine dernière, cela nous a été rappelé par Guillaume dans le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 8. Il y avait la promesse du Seigneur : vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Sauf que, eh bien, vous le savez, eh bien, l'église de Jérusalem, eh bien, a la fâcheuse habitude de rester à la maison. Ils sont bien, ils ont grandi, ils ont vu de belles choses. Il y a eu des conversions en masse. La première prédication de l'Évangile, je l'ai noté, 5000 personnes se sont converties le jour de la Pentecôte. Alléluia. Non, 3000, excusez-moi, 3000. Quelque temps plus tard, ce fut 5000. Ils ont été renouvelés par le Saint-Esprit. Ils ont pris de l'assurance. C'est dans l'épreuve, alors qu'ils étaient persécutés, Pierre saura dire ceci, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous voyons une église vraiment qui est établie, qui est née dans la persécution et qui se consolide eh bien dans ces premiers chapitres des Actes des Apôtres. Et là, eh bien, nous sommes dans la phase 2, c'est-à-dire maintenant que vous êtes solide, maintenant que vous êtes d'aplomb, maintenant que vous êtes consolidé, vous devez passer à la deuxième phase du programme, vous devez être les témoins. Alléluia, vous devez parler de moi. Et là, eh bien, on s'aperçoit que il a fallu qu'une crise eh bien, se fasse, qu'une persécution, nous l'avons lu, eh bien, puisse être occasionnée pour que, enfin, les chrétiens et l'Église commencent eh bien, à témoigner autour d'eux, puisqu'ils vont être obligés eh bien, de s'échapper de Jérusalem, de quitter Jérusalem. Les apôtres, eux, vont rester, mais plusieurs chrétiens eh bien, vont partir en Samarie et dans d'autres lieux dans le bassin méditerranéen, et ils vont commencer à parler de Jésus, et au fait étonnant, les gens auxquels ils vont parler vont se convertir, alléluia, et vont découvrir eh bien, la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, amen. Et je voudrais voir avec vous que le plan de Dieu ne dépend pas que de Dieu. Le plan de Dieu dépend aussi de nous et de notre capacité à obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous avez remarqué ici que tant que les chrétiens de l'église de Jérusalem n'étaient pas sortis de leur ville, de leur église, les Samaritains ne connaissaient pas le message de l'Évangile. On aurait pu se dire, on le verra tout à l'heure, Dieu aurait pu envoyer un ange, mais ce n'est pas des anges qu'il a confié cette mission. Il a confié cette mission à son église, à son peuple, c'est-à-dire à moi et à vous également. Et à chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et si tu t'es posé la question en venant dans ce lieu ce matin, peut-être en priant le Seigneur, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie ?» La réponse, elle est claire, nette et précise. Le Seigneur veut que tu sois un de ses témoins. Que l'on sache que tu es un enfant de Dieu et que tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie, Dieu veut l'accomplir dans la vie de celui de celle qui est à côté de toi. Et ça passe par toi. Dieu veut agir par toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais moi, ça me remplit de joie. Je me dis, mais Seigneur, alors, sur cette terre, j'ai une utilité. Sur cette terre, eh bien, il y a un plan pour moi. Alléluia. Tout s'est pas arrêté le jour où je t'ai accepté comme sauveur et je suis dans l'attente, eh bien, de monter au ciel. Non, non. Tu veux, Seigneur, que m'utiliser dans cette génération. Alléluia. Alors, on va voir ensemble eh bien, des hommes qui ont témoigné, des hommes également qui ont cru, des hommes qui ont été baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, des hommes qui ont résisté au diable. Et je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que le Seigneur Jésus agit avec des moyens humains. Le but de l'Église Allez, pour en être encore convaincu, c'est mon premier point des hommes qui témoignent. On va lire dans l'Évangile selon Marc, si vous voulez bien. Évangile selon Marc, au chapitre 16e. Ce sont des textes qu'il faut repasser en boucle dans notre cœur afin que nous en soyons intimement convaincus. Marc, chapitre 16e et le verset 15e, voici ce qui nous est dit. Puis il leur dit, c'est le Seigneur qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. » Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il l'accompagnait. Alléluia. Donc le but de l'Église est de répandre cette bonne nouvelle. Le message est, on ne peut plus clair, c'est d'aller et de prêcher par tout le monde, eh bien, cette bonne nouvelle à toute la création. Je disais tout à l'heure, eh bien, que ce n'est pas une mission que Dieu a confiée à des anges. Vendredi soir, nous voyons ensemble combien un ange avait parlé à un centenier romain du nom de Corneille. Et cet ange qui parle à Corneille, eh bien, lui dit que Dieu tient compte de ses prières et de ses aumônes. Mais il lui dit, il faut que tu envoies chercher Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire que malgré tes prières, malgré tes bonnes actions, malgré ton obéissance à la loi d'Israël, tu es perdu. Tu as besoin d'entendre des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que l'ange ne lui dit pas alors ? L'ange connaît le nom du Fils de Dieu. L'ange vient de la présence de Dieu lui-même. Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Il est le Fils de Dieu. Cet ange lui-même a été créé par Dieu. Et il peut en parler, mais l'ange ne peut pas dire, eh bien, pour lui-même, ce que cela signifie obtenir le pardon de ses péchés. Parce que Jésus, eh bien, n'a pas donné sa vie pour des anges, mais il a donné sa vie pour des hommes. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 16, dit ceci, « Ce n'est pas à des anges que Jésus vient en aide. Amen. » Et Pierre, lui, par contre, il peut témoigner de ce que c'est que la grâce de Dieu. Il peut dire ce que ça veut dire, se sentir humilié par son péché. Lui, il peut dire ce que ça veut dire être vaincu par l'esprit de ce monde. Il peut dire, lui, ce que ça veut dire se prendre soi-même en dégoût parce qu'on a été convaincu de péché. Mais il peut dire également la joie et le bonheur parfait d'être relevé par Jésus, de découvrir le pardon du Seigneur, de considérer, mais Seigneur, malgré mon indignité, tu as donné ta vie pour moi à la croix du calvaire. Tu as souffert pour moi à la croix. Alléluia. Et Pierre, malgré tous les défauts, il est certainement plus imparfait qu'un ange, c'est clair. Mais malgré tous ses défauts, il est un témoin crédible de la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, et en accord avec ce don spirituel, alléluia, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, il n'y a que toi qui peux témoigner de cela, qui peux dire, tu sais, avant que de rencontrer le Seigneur, ma vie c'était ceci, ma vie c'était cela, le désordre, peut-être des choses, eh bien qu'aujourd'hui on ne veut plus penser, quand elles refont surface, on en rougit, mais on se souvient que Jésus, eh bien, a payé pour nous le prix de la dette, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On a l'assurance du salut. Alléluia. Amen. Et ce que Jésus, eh bien, a fait dans ta vie, eh bien, il veut le faire également pour d'autres. Mais le Seigneur utilise des hommes et des femmes qui ont été pardonnés et graciés. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons en prendre conscience? Et cela nous amène à ce point vraiment, eh bien, que je disais dans l'introduction, Dieu agit par nous. Dieu agit par nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans les Romains, dira, comment entendront-ils ceux qui ne connaissent pas s'il n'y a personne qui leur prêche ? Cela signifie bien qu'il y a besoin de prédicateurs, il y a besoin de témoins, il y a besoin d'hommes. Ne dites pas, en me voyant vivre, ils vont quand même comprendre. Ils vont certainement comprendre certaines choses, et je l'espère. Qu'au travers de votre façon de vivre, eh bien, ils vont dire, mais lui, il est différent, il y a quelque chose. Mais la source de votre changement, de votre transformation, ça, c'est explicable. Et les hommes et les femmes de notre temps ont besoin de l'entendre et de le savoir, qu'on leur parle de Jésus. On parlait il y a quelques semaines en arrière, on était avec Guillaume et on parlait avec le frère Christian Blanc que nous avons reçu. Il y a quelque temps en arrière, il m'a dit ceci, il disait, je me documentais sur l'histoire des premiers chrétiens. Il y a un livre qui s'appelle « La vie quotidienne des premiers chrétiens » qui est très intéressant. Et il me disait ceci, tu sais, dans le premier siècle de l'Église, il n'y avait pas de grands évangélistes. Il n'y avait pas de grands pasteurs ou de... comme à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et pourtant, l'Évangile, eh bien, s'est diffusé partout, partout. Et les récits historiques, Pline le Jeune, etc., disent et affirment une chose, c'est que sans cesse, les chrétiens parlaient de leur foi. Ils parlaient de Jésus sans arrêt. Vous avez un exemple, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, quand à la fin, Paul se trouve dans un bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Parle du Seigneur, il prie le Seigneur, il y a la tempête, etc. Et moi, je peux supposer qu'à la fin de ce voyage-là, il y en a un grand nombre qui ont déjà accepté Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Alléluia. Amen. Et je crois que, eh bien, au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de considérer, eh bien, qu'un réveil ne peut passer que si chacun d'entre nous, nous sommes impliqués dans, eh bien, cette affaire de rendre témoignage et de faire connaître, eh bien, le beau nom du Seigneur. Je prends juste une sous-partie pour nous faire comprendre que Dieu agit par nous. Je peux prier en disant, Seigneur, sauve ma famille, sauve les miens, Seigneur. Mais lorsque je lis l'histoire d'un homme qui a su sauver sa famille, je m'aperçois que il n'a pas fait que prier, mais il s'est mis à obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Dieu a agi par lui pour que sa famille soit sauvée. Je pense à Noé, dont la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, nous dit qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Mais la Bible nous dit qu'il accomplit tout ce que Dieu lui avait dit. C'est lui qui a construit cette arche, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait l'arche. Ce n'est pas un ange qui a construit je ne sais pas quoi. Non, c'est lui-même qui s'est mis au travail. Et je crois que nous aussi, en tant que père, mère de famille, c'est aujourd'hui, on célèbre les mamans, que le Seigneur soit béni pour les mamans dans l'Église. Alléluia. Mais tu peux bâtir une arche, toi aussi. Comment je fais pour bâtir une arche ? Si ton enfant te voit prier chaque jour, si te voit lire la Bible chaque jour, montrant combien c'est important pour toi, cette vie spirituelle, combien toi, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur. Vous savez, je crois que dans la maison, on ne triche pas. Hein. On a nos défauts, on a nos qualités, tout y passe. Mais il y a une chose véritable, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Alléluia, tu es mon sauveur. Alléluia, amen. Et c'est comme ça eh bien, qu'on construit une arche qui permet de sauver eh bien, sa famille. Alors, vous dire ceci, c'est que cette foi-là, eh bien, elle engage, elle témoigne, elle prend parti, elle s'expose. Et d'autres exemples pourraient être donnés, mais on n'a pas le temps. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que ces Samaritains se sont mis à croire. Ils ont cru, Philippe, des hommes qui croient, donc mon deuxième point. Philippe s'est mis à prêcher le Christ aux Samaritains. Vous avez remarqué, sobrement, l'Écriture nous dit ceci dans Acte 8 et au chapitre, Acte chapitre 8. Et le verset 4, il nous est dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. » Il n'y a pas eu une méthode. Il n'a pas fait des cours en 10 leçons. Il n'a pas fait un colloque. Il ne s'est pas enquis du contexte socioculturel ou quoi que ce soit. Non, non. Et pourtant, il y avait à dire. Les Samaritains, c'était un méli-mélo. Vous vous souvenez, si vous voulez en savoir plus, vous lisez le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Vous vous souvenez de tout cela. Mais lui, il s'est mis à faire une chose. Il a prêché le Christ. Il a prêché Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dira, « J'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et ceci sans la sagesse humaine, afin que la foi des auditeurs repose non pas sur un homme, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et ici, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui a confirmé sa parole afin que ces Samaritains, s'emparant du message, découvrent que Dieu les aime aussi, les Samaritains. Dieu les aime aussi. Si toi, tu te mets à prier, ce que je voudrais vous dire, c'est que non seulement Dieu agit avec ses disciples qui ont propagé la bonne nouvelle de Jésus, mais Dieu aussi agit avec celui qui est loin de lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu veut te faire. Et je voudrais te dire, toi, qui es peut-être loin du Seigneur, là, dans cette salle, peut-être dans tous tes schémas de pensée, peut-être dans tous tes questionnements, mais peut-être aussi convaincu de péché, ne compte pas sur la prière d'un tel ou d'un tel. Le Seigneur veut te faire compter sur ta prière à toi. Il veut que ce soit toi qui prie. C'est ça la grâce de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, mais c'est moi qui criais à Dieu. C'est moi qui lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me pardonnes. Viens à mon aide, viens à mon secours. Alléluia. Amen. Et cette ville de Samarie, nous voyons que ces hommes de Samarie se sont mis à crier vers le Seigneur. Je pense qu'ils étaient très malheureux. Il y avait énormément de possédés. Nous avons lu ensemble. Il y avait des esprits impurs qui sortaient de plusieurs démoniaques. J'ai entendu ce récit que des archéologues ont trouvé dans ces bourgs des Samaritains, là dans cette région de Samaritains, des ossements crâniens avec de nombreux exemples de trépanation. Alors on faisait comme on pouvait à l'époque, mais la trépanation existait, mais avec de nombreux morts. Et il semble que ce pays, comme tant d'autres pays, vivait vraiment des temps particulièrement difficiles. Vous avez remarqué qu'un des personnages importants de la société de Samarie, c'était un magicien, on va dire un gourou, un envoyé de la puissance des ténèbres. Et c'est lui qui régnait, il se faisait passer pour un homme de Dieu. Vous voyez ? Et voici que Philippe prêche en disant, Dieu vous aime, il est venu à votre aide en vous donnant son propre fils Jésus, qui est venu pour vous libérer de vos péchés, de la puissance des ténèbres. Mettez-vous à le prier et il vous exaucera. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et c'est ça la caractéristique de l'Évangile. C'est que dans l'Évangile, il y a de la joie. Alléluia. Alors je sais qu'il y a un chanteur qui a dit « il y a de la joie ». Voilà. Mais il y a de la joie dans l'Église. Amen. Hein. On a dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Tout à l'heure, on a chanté des chants. Eh bien, la joie, moi, je crois qu'on a vraiment besoin de développer cette joie. Alléluia. Vous savez, ça fait partie du fruit de l'esprit, la joie, l'amour qui triomphe. Alléluia. Alors, si vous êtes toujours là, vous êtes toujours avec moi, je vais vous parler d'exemples de joie qui sont dans le Nouveau Testament et c'est toujours associé à Jésus. Quand on rencontre le Seigneur, on est heureux, il y a de la joie. Voilà. Alors, je ne suis pas Charles Trenet, mais voilà. Mais par exemple, quand la naissance de Jésus est annoncée à Marie, mais elle est saisie d'une grande joie. Voilà. Il nous est parlé d'Abraham qui s'est réjoui en voyant le jour du Seigneur, la prédication de l'Évangile qui apporte la joie, etc. La joie malgré les épreuves, Matthieu 5, 12. La joie de ces premiers chrétiens, acte 2, 46. Bon, je passe. Hein. Et puis, la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et puis, la joie de se retrouver eh bien, avec le Seigneur dans la grâce de Dieu. Alléluia, dans le ciel du Seigneur. Et ce qu'il faut retenir encore une fois, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, Dieu veut agir par toi pour faire connaître le message rédempteur qui sauve. Mais je voudrais dire à celui, celle, qui passe par l'épreuve, tu es en capacité de placer ta foi dans le Seigneur, toi-même, ta propre foi, pour être sauvé, pour être guéri, pour être pardonné, pour être relevé. Alléluia. Ne fais pas l'économie de ta foi. Amen. Et cette parole, elle est là. Eh bien, pour susciter la foi, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'être, j'allais dire, au top de la révélation, de la connaissance des Écritures. Mais l'Écriture, la Bible nous dit, tout simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je continue. Parce que ce réveil, il est beau. Hein. Donc, des hommes qui sont envoyés, qui prêchent, des hommes qui croient et qui vivent ce qui est écrit. Alléluia. Et la suite, Philippe, il n'invente rien. Il suit le programme. Et tout à l'heure, on a lu dans l'Évangile selon Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il organise un service de baptême. Et là, alors qu'est-ce que ça veut dire un service de baptême? Ça veut dire, je fais de ces hommes-là des disciples. Celui qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui s'engage à suivre le Seigneur, non pas selon ses conceptions à lui, non pas son modèle à lui, non pas ses repères à lui, mais il veut suivre la parole de Dieu, alléluia. Et je voudrais qu'on puisse, nous aussi, s'interroger en disant, mais moi je me parlais à moi-même, Emmanuel, est-ce que tu es toujours un disciple de Jésus? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait qui est Jésus? Est-ce que tu es quelqu'un qui croit en Jésus? Oui, ça, je sais qui tu es, Seigneur, et tu m'as sauvé. Oui, mais est-ce que tu marches dans mes voies? Vous savez que avec le temps, parfois, on peut oublier certaines choses. On peut, entrer dans une espèce de religion, un ronron spirituel qui nous laisse dans une espèce de confort, ou parce qu'on va à la réunion, j'ai ma carte de membre à l'église, bien, je suis un membre de l'église locale, etc. Et ça me suffit. Je remercie le Seigneur de ce que ce matin nous ayons eu ce don spirituel concernant la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle est pour chacun. Elle est pour celui qui découvre l'amour du Seigneur, qui a besoin d'être libéré et pardonné de tous ses péchés parce qu'il vivait sans Dieu. Mais elle concerne également le peuple de Dieu. Et quand Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis », il parle au présent. J'ai toujours besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de savoir que si je suis ce que je suis, c'est grâce à cette relation que j'ai avec toi. C'est grâce à ton amour, c'est grâce à ton pardon. Dites-moi, les frères et les sœurs, est-ce que depuis que vous avez rencontré Jésus, vous ne vous êtes jamais trompé? Vous ne vous êtes jamais fourvoyé? Est-ce que vous ne vous êtes jamais tombé? Est-ce qu'il n'y a jamais eu, excusez-moi de le dire, une situation de péché qui est apparue dans votre vie? Que celui, vous connaissez la suite, hein, jette le premier la pierre. Nous voulons dire que si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et ces hommes ont dit, mais Seigneur, nous ce que nous voulons, c'est rester attachés à notre Sauveur. On ne veut pas être des profiteurs de l'amour de Dieu, mais on veut être des disciples, on veut être de celles et ceux qui s'engagent. Autrefois, on était prisonniers de nos péchés, maintenant nous avons été libérés et nous voulons avancer eh bien, dans cette grâce eh bien, qu'il nous est donnée eh bien, en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'étape suivante, c'est qu'ils vont désirer être baptisés dans le Saint-Esprit. La suite, vous le savez, eh bien, Pierre et Jean vont être envoyés depuis Jérusalem Petite peut-être détail qui est à noter, vous avez remarqué que ce n'est pas Pierre et Jean qui décident d'aller à Samarie. Ils sont envoyés. Pierre et Jean ne sont pas, entre guillemets, les patrons ou les chefs de l'Église. Ce sont ils font partie de l'équipe pastorale, des responsables locaux, mais ils sont eux-mêmes envoyés, missionnés, et on voit la structure de l'Église où chacun est serviteur des uns des autres. Et ici, eh bien, ils vont enseigner le baptême dans le Saint-Esprit. Comme ça a été rappelé la semaine dernière, eh bien, ce baptême dans le Saint-Esprit a pour but de nous aider et de nous armés pour le témoignage et de faire de nous des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, à celui qui cherche à être rempli du Saint-Esprit, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit? Pourquoi tu veux de cette onction dans ta vie? Lorsque Jésus entame son ministère terrestre, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter une bonne nouvelle, pour guérir les malades, etc. » C'est-à-dire pour servir. C'est-à-dire que ces premiers chrétiens ont compris une chose. Je suis sauvé et maintenant je suis un disciple. Je suis mon Seigneur. Mon salut dépend de mon attachement à lui, de ma communion à lui, du fait de le suivre lui et lui seul. Mais maintenant, je veux non seulement le suivre, mais je veux le servir. Et pour le servir, j'ai besoin d'un équipement surnaturel, spirituel, le Saint-Esprit qui va m'aider à servir le Seigneur. Alléluia. Qui va me donner les outils, la boîte à outils pour servir le Seigneur. Lorsque vous travaillez dans n'importe quel corps de métier, eh bien, il y a toutes sortes d'outillages, de panoplies, etc. Et puis, vous apprenez à utiliser ces outils. Pendant l'été, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je travaillais quand j'étais étudiant. Je travaillais dans une tonnellerie. Je ne sais pas si vous connaissez les tonnelleries, les barriques, etc. On dit pas des tonneaux. Les tonneaux, ça fait 8 mètres. Les barriques, vous voyez ce que c'est? Bourgogne, tout ça, Bordelais. Et j'avais appris à utiliser le marteau, la chasse, pour mettre les cercles de fer, etc. Je me suis mis quelques fois le marteau sur les doigts. Voilà, mais au bout d'un moment, j'ai appris. Et le Saint-Esprit, eh bien, lui, veut nous équiper de ses outils, alléluia, afin que non seulement tu puisses avoir cette autorité pour témoigner ce revêtement de puissance, mais également pour que tu puisses, eh bien, être averti des ruses du diable, pour que tu puisses comprendre que tu es dans un combat spirituel maintenant et que tu as besoin, eh bien, de discernement. Et justement, vous avez remarqué que dans cette jeune église, c'est une jeune église, ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont vu des miracles, ils ont placé leur foi en Jésus, ils se sont fait baptiser, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et maintenant ils sont en train de découvrir une autre chose, c'est qu'ils doivent résister au diable. Vous avez vu? Vous avez remarqué? La Bible nous dit que pendant qu'il y a eu ce réveil, Philippe s'est pas aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était là avec des mobiles impurs. Simon le magicien. Alors, il s'est fait baptiser avec tout le monde. Voyant que tout le monde se faisait baptiser, il s'est fait baptiser avec tout le monde. Et on s'aperçoit, et Pierre révèle l'état de son cœur et montre en réalité que cet homme n'a pas fait, eh bien, d'alliance avec le Seigneur, que cet homme, eh bien, en réalité, se trouve loin de Dieu, parce que, en réalité, ce que cet homme cherche parmi dans l'Église, c'est une place, c'est une position, et Pierre va discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes frères et sœurs, je crois que cet exemple de Simon le magicien qui s'introduit dans l'Église, c'est un exemple qui, pour nous, doit nous parler. Parler récemment, nous avons été, il y a quelque temps, dans ce musée du désert, où nous avons vu des chrétiens qui ont supporté la souffrance plutôt que d'être infidèles au Seigneur, plutôt que de perdre la foi en Jésus. Ils sont restés... et ils ont accepté la souffrance dans leur vie, mais c'est étrange. On a l'impression que l'arme la plus redoutable pour les enfants de Dieu, ce n'est pas la souffrance, même la souffrance de la maladie ou je ne sais quoi. Je parlais même avec une sœur qui est célibataire, c'est dur, mais elle tient. Mais la séduction, il y a quelqu'un qui se fait baptiser et qui, en fait, n'a rien compris à la grâce de Dieu. Et je le répète, lui, il cherche une position dans l'Église. Et quand Pierre prie pour les frères et les sœurs de Samarie qui cherchent à être baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils prophétisent. Bref, on sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Alléluia ! Amen ! La Bible nous dit que lui dit, mais donnez-moi ce pouvoir en échange d'un petit peu d'argent. Et Pierre, lui, il discerne tout de suite qu'il y a un souci. Peut-être que moi, j'aurais dit, je ne sais pas, peut-être que j'aurais dit, c'est un jeune converti, il a besoin, c'est un jeune converti, hein, c'est vrai, hein, c'est un jeune converti, peut-être qu'il a besoin qu'on lui enseigne certaines choses. Peut-être qu'il a besoin, voilà, et il a encore les vestiges de son passé, mais allez, au niveau de sa culture, etc., il faut lui apprendre des... Mais Pierre, il n'y va pas par quatre chemins. Je vois que tu es dans un fil à la mer. Hein. Repens-toi de ta méchanceté. Ça veut dire que tu t'es jamais repenti. Ça veut dire que tu n'as jamais accepté la grâce de Dieu dans ta vie. Tu t'es jamais considéré comme quelqu'un qui était un pécheur qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et si tu t'es fait baptiser, c'était pour faire plaisir. Mais Dieu l'a vu. Et heureusement, Pierre... Eh bien, le met à l'amende, en quelque sorte, et révèle son état de cœur, qui, à mon sens, ne va pas changer, puisqu'il dit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas tout ce que vous m'avez dit. » Mais enfin, excusez-moi, quand quelqu'un est convaincu de péché, on ne demande pas à une tierce personne de prier, si c'est toi-même qui te mets à genoux, oui ou non ? Oui ou non ? C'est ça l'Évangile, oui ou non ? C'est une rencontre personnelle entre le Seigneur et soi-même. Et cet homme, eh bien, n'avait certainement rien compris. Et il me semble, mes frères et sœurs, quand je dis il me semble, ça veut dire vraiment que je suis convaincu que c'est dans ces combats-là, ce sont ces combats-là que nous avons besoin de combattre. J'ai écrit, et vous le lirez dans le petit, si vous le voulez, dans le journal, ceci. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est une chose de voir que le mal existe. C'est une autre chose que de le combattre. Et de dire... Je n'en veux pas dans ma vie, je n'en veux pas dans ma famille, je n'en veux pas eh bien, dans l'Église. Et vous savez que nous sommes dans un état d'esprit dans ce monde où sous prétexte de tolérance, tout doit être accepté. Et il y a un vent de séduction qui est là. Imaginez que Pierre n'ait rien dit, mais imaginez. Mettez-vous à la place. Imaginez, Pierre dit, ok, tu me donnes de l'argent et voilà, et je te donne une place. Mais le profil de l'Église va changer avec Simon dans l'affaire. Hein. Simon, il va vous faire payer pour prier. Vous voulez une prière ? Payez. Vous voulez que je vienne pour les obsèques ? Vous payez. Vous voulez pour le mariage ? Vous priez. Vous voulez pour la Sainte-Seine ? Tout va se marchandiser. Dites-moi, excusez-moi si je... Il n'y a pas une église qui fait comme ça. Il n'y a pas une église qui fait comme ça et qui marchande les choses de Dieu. Alors, il y a une église à laquelle on pense tout de suite. Mais il n'y a pas des églises même évangéliques qui font comme ça. Vous savez, nous, en ce qui nous concerne, lorsque les offrandes, c'est le temps des offrandes, je dis simplement, allez, on se lève, on chante... un petit chant, et puis c'est le service des offrandes. Ça s'arrête là. Mais je suis stupéfait combien de frères et sœurs puissent être séduits par des appels d'argent de la part d'hommes de Dieu, entre guillemets. Parce que pour moi, quand on est un homme de Dieu, on n'a pas besoin de se livrer à ce genre de pratique. Mais mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de garder la doctrine. L'Écriture nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Oui, mais il chante tellement bien. Il adore Marie, mais ce chant, c'est top, hein. Il pourrait conduire la louange ici. Je vais vous parler avec mon cœur. Je suis désolé si je me suis un peu nerveux là. Mais je suis indigné par rapport à ce que nous rencontrons parfois dans certaines églises qui acceptent ce qui n'est pas acceptable concernant la doctrine. Comment est-ce que je peux me mettre à prier avec quelqu'un qui adore Marie, qui prie les morts, qui prend l'hostie et me dire c'est mon frère? Je vais vous dire, c'est pas mon frère du tout. C'est mon frère en Adam, mais il n'aura jamais rencontré Jésus. S'il avait rencontré Jésus, il arrêterait avec toutes ces choses. Je suis peut-être dur, allez au musée du désert et voyez ces hommes et ces femmes qui, dans des tours Constance, la tour de Constance, Marie Durand, qui pouvait dire simplement « J'abjure ma foi ». Et elle rentrait dans le rang. Et mes frères, on ferait machine arrière. C'était peut-être plus agréable d'avoir Simon dans les rangs. Simon le magicien. La notoriété de cet homme. Le profit que je vais avoir avec cet homme. Mais quelle tristesse dans les cœurs par rapport au Saint-Esprit. Oublie les victoires. Hein. Oublie les conversions authentiques. Hein. Oublie les nouvelles naissances, oublie les démons chassés et les guérisons divines, c'est plus là. Et mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de dire Seigneur, ce combat, il passe par toi, il passe par moi. Résistez au diable, car il fuira loin de vous. Alléluia. Et m'excuse vraiment pour le ton que j'emploie, mais il me semble que nous sommes dans des temps dans lesquels nous avons besoin de garder la parole et la parole de la vérité. Je termine. Priez pour nous. Demain, on aura aussi un conseil spirituel, les anciens de l'Église. Et je vous parlerai de cela. Il y a plusieurs projets qui sont là. Dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 3, il nous est dit ceci. Eh bien, garde ce que tu as reçu. Hein. Je le simplifie. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est Apocalypse. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. On s'aperçoit que le mot que le Seigneur Jésus donne à son Église pour les derniers temps, vous pouvez faire une analyse du message de Christ à l'égard de ces Églises. C'est retiens ce que tu as. Garde-le. Ça ne veut pas dire ouvre-toi sur plein de doctrines, ouvre-toi sur l'inattendu, la dernière mode qui passe. C'est-à-dire, non, ce que tu as reçu, cette grâce, cette parole, c'est ça que tu dois garder. Et je reviendrai te chercher. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas troublé, j'espère. Mais tout cela pour vous dire que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel qui passe par nous. C'est une responsabilité. Si tu veux que d'autres soient sauvés, c'est aussi à toi de témoigner. Si tu veux être sauvé, c'est à toi aussi de prier. Si tu veux suivre le Seigneur, c'est à toi de te faire baptiser. Si tu veux être un instrument entre les mains du Seigneur, c'est à toi de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et pas simplement le moment où il y a des appels, mais encore chez toi. Tu fermes la porte de ta chambre, tu pleures peut-être. Comment ça se fait, Seigneur? Mais tu cherches le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ta propre recherche. Et si nous voulons que l'Église reste l'Église de Christ, on doit résister au diable. Le séducteur qui, depuis le jardin d'Éden, veut nous faire dire ceci, on fait entendre sa voix. Dieu a-t-il réellement dit? C'est réellement comme ça qu'on est sauvé? Sois pas si étroit d'esprit, mais t'es trop fermé. Ouvre-toi. Et Jésus lui répondra, le second Adam qui a vaincu Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit, fin de l'affaire. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur ensemble ? Et on dit, Seigneur, je veux prendre ma place. Alléluia, parmi ton peuple. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, ta bonté à notre égard. Et je veux te remercier, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as donné ta vie. Seigneur, je veux te remercier également, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, d'être, Seigneur, au contact de cette vérité que nous avons chantée, Jésus sauve. Et Jésus seul, il n'y a pas à altérer le message, il n'y a pas à rajouter, il n'y a pas à retrancher, il est à prendre ou à laisser. Mais Seigneur, tu nous mets face aussi à notre responsabilité de chacun. Seigneur, nous sommes de celles et ceux que tu as appelés à témoigner. Et Seigneur, soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Nous sommes de ceux et celles qui sommes appelés à prier, à nous saisir par la foi de toutes tes grâces, du salut, de la guérison, de l'assurance, Seigneur, dans les combats. Et Seigneur, ça aussi, ça dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est également notre désir de te servir et de marcher dans tes voies. Et ce qui dépend de nous, c'est de garder la vérité. Seigneur, j'ai cité tout à l'heure cette parole de ton serviteur. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Seigneur, je te prie afin que cette parole demeure dans nos cœurs. Il y a peut-être des choix, il y a peut-être, Seigneur, des dissensions, des fractures qui se font à cause de cette parole. Mais Seigneur, on est sauvé par la vérité et dans la vérité. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que nous chérissions cette vérité. Merci de bénir mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, de les remplir du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs qui sont, Seigneur, dans le combat, peut-être dans leur santé, qui souffrent depuis longtemps. Seigneur, peut-être dans leur famille, avec, Seigneur, un enfant qui résiste, peut-être avec un parent, Seigneur, qui n'est pas gentil. Seigneur, en raison de la foi d'un bien-aimé qui est là aujourd'hui. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, je te prie, Seigneur, de fortifier chacun d'entre nous, afin que nous restions, Seigneur, droit, Seigneur, dans ta parole, dans la vérité. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. Avant qu'on termine, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui ou pour elle, qui dit, mais je voudrais pas, j'ai besoin qu'on prie pour moi, je me sens fragile, je me sens faible. Si quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui ou pour elle ce soir, eh bien, vous levez votre main en disant, voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu, oui. Voilà, oui. Quelques-uns qui lèvent leur main. Voilà, mais je crois qu'on a tous besoin de la grâce, hein. Mais parfois, c'est quelque chose qui est plus d'actualité. Oui, je vous ai vu. Seigneur Jésus, je veux t'apporter ces bien-aimés. Et Père Céleste, je veux te demander, Seigneur, de les bénir. Toi, Seigneur mon Dieu, le combat, il est là. Seigneur, et ils ne veulent pas se laisser emporter, dépasser par les vagues, Seigneur, de l'adversité. Mais ils veulent tenir, Seigneur, et être forts. Ta parole nous dit que, Seigneur, toi, tu es celui qui est capable de, Seigneur, nous perfectionner. Et c'est ta promesse que tu nous perfectionnes, que tu nous affermis, que tu nous fortifies, que tu nous rends inébranlables. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, de faire cette œuvre dans la vie de ces bien-aimés. Parce que à toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité, sur Satan, sur le mensonge, sur la mort, sur le péché. Seigneur, tu es le dominateur, tu es le grand vainqueur. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons élever. À toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.